Gilles Bogaert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Pernod Ricard. On va revenir avec vous sur votre premier semestre et sur les perspectives. Vous l'avez mis en avant, hein, clairement dans votre communication, ce qui s'est passé en Chine sur les ventes, effectivement, a eu un impact important. Pourtant, vous dites que à l'automne encore 2013, vous pensiez que ça allait peut-être aller mieux sur ce marché chinois.
Oui, il y a un ralentissement de l'activité en Chine, on le savait. C'est quelque chose qu'on avait déjà dit à l'époque de la communication de notre objectif annuel. C'est vrai que, je dirais que dans les derniers mois, chaque mois qui passait, il y avait de nouvelles mesures qui étaient prises plus restrictives pour la consommation, notamment les mesures anti-dépenses ostentatoires. Et donc, on pensait au départ qu'il pouvait y avoir un rebond de la consommation au deuxième semestre en Chine. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y aura pas de rebond sur le deuxième semestre. On reste très confiant sur le moyen terme, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'abaisser notre objectif annuel à une croissance interne du résultat opérationnel de 1 à 3%.
Là, on peut dire clairement que c'est le segment haut de gamme, premium, qui a le plus souffert dans la période.
Oui, tout ce qui est occasion cadeau, tout ce qui est, comme on dit en anglais, le business entertainment est plus touché, et donc les produits plus haut de gamme sont davantage impactés. Donc on avait une base de comparaison très élevée sur le premier semestre. On était à plus de 18% de croissance l'année dernière. Cette année, on est à moins 18%. Donc il y a évidemment un changement de tendance qui est assez brutal. On résiste mieux sur les marques premium et on résiste mieux sur les canaux de distribution modernes, donc modernes on-trade ou supermarché, consommation à domicile. On souffre davantage dans les canaux traditionnels et donc dans le très haut de gamme.
Oui, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est votre second marché, hein, donc c'est important, la Chine.
C'est vrai, c'est 12% du chiffre d'affaires du groupe. Bon, pour autant, pas que la Chine occulte tout le reste. Hein. C'est vrai que c'est l'un des points les plus difficiles de l'activité sur le semestre. Pour le reste, dans les pays émergents hors Chine, on a une croissance interne du chiffre d'affaires de 7%. Donc c'est un peu moins dynamique que l'année dernière, mais ça reste soutenu. Les marchés matures sont en croissance. On a une belle croissance aux États-Unis, en Allemagne, en France. Donc globalement, on a aussi pas mal de motifs de satisfaction.
Oui, parce qu'il y a eu de la croissance organique de 2%, hein, sur le deuxième trimestre, donc ce qui était plutôt bien compte tenu du contexte.
Oui, ce qui nous amène à une performance stable en croissance organique à fin décembre, et donc une croissance interne de notre résultat opérationnel courant de 2% sur la période. Donc un contexte plus difficile, ce n'est pas une surprise, mais néanmoins toujours de la croissance avant effet devise et périmètre, puisque effectivement l'effet devise est particulièrement négatif sur le semestre.
Alors c'est vrai que sur les pays émergents, on était habitué, ou vous aviez habitué quelque part les investisseurs à une croissance à deux chiffres. Donc là, on est en dessous. La partie, ce qui s'est passé sur les devises, ça a vraiment perturbé, c'est ce qui a le plus impacté, on peut dire, le semestre.
Je pense que si on parle d'abord des tendances sous-jacentes, bon, les pays émergents, nous sommes convaincus du potentiel de croissance future des pays émergents. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a eu des croissances à deux chiffres dans le passé. On sait que c'est des marchés plus volatiles. Donc on est en ce moment dans une période moins favorable pour ces pays-là. Mais nous sommes très heureux d'avoir plus de 40% de notre chiffre d'affaires dans les pays émergents. Et comme je le disais, si on enlève la Chine, on a quand même une croissance tout à fait satisfaisante de 7% sur le reste des pays émergents. Donc, ce qui se passe, c'est que oui, il y a une consommation qui est un peu moins forte et les devises des pays émergents ont baissé pour des raisons macroéconomiques propres à certains de ces pays, aussi compte tenu de la politique de la Fed aux États-Unis qui a entraîné un reflux de capitaux depuis les pays émergents et donc une baisse de ces devises.
Alors, on le sait, vous avez un portefeuille de marques très diversifié, ce qui peut être un atout dans cette période. Vous comptez justement rebondir avec ce portefeuille-là?
Oui, on a un portefeuille varié, différentes catégories, différents niveaux de prix qui nous permet de nous adapter aux évolutions de l'activité. On a aussi une présence géographique globale qui nous permet d'aller chercher la croissance là où elle est. Et je dirais qu'en plus de l'existant, on a aussi toutes nos initiatives en termes d'innovation, les initiatives en termes de digital, qui nous permettent aussi d'aller chercher de nouvelles sources de croissance dans des nouvelles catégories, dans des nouvelles tendances, dans des nouvelles occasions de consommation. Et nous avons clairement accéléré en termes d'innovation. Ça représentait à peu près un quart de la croissance du chiffre d'affaires de ces 3 dernières années. On avait il y a 4 ans une centaine d'innovations dans le pipeline, on en a aujourd'hui 350. Donc on est clairement dans une phase d'accélération de l'innovation qui va tirer la croissance de demain.
Alors, on a parlé de la Chine, on en parle forcément. Là, justement, pour la classe moyenne, vous présentez le Martel distinction. Donc là, typiquement, c'est d'aller plus loin et accéder encore plus à cette fameuse classe moyenne chinoise.
Je pense qu'aujourd'hui, la pénétration des spiritueux importés en Chine est relativement faible. C'est seulement 1% du marché total des spiritueux. Donc clairement, avec l'essor des classes moyennes en Chine, on estime que la croissance est de plus de 10% par an, il y a pour nous la possibilité d'aller, avec nos marques premium, conquérir de nouveaux consommateurs dans de nouveaux canaux, conquérir également de nouvelles occasions de consommation, sans cannibaliser, bien évidemment, la partie super premium du portefeuille. Donc Martel Distinction a précisément l'objectif de saisir l'occasion de consommation repas, notamment dans les restaurants chinois, et donc de prendre des parts de marché, notamment au Baijiu. Donc on l'a lancé en début de semestre. Il est encore trop tôt, évidemment, pour donner des résultats chiffrés, mais les premiers retours qualitatifs sont satisfaisants.
Mmh. Un mot de votre plan d'économie que vous avez baptisé Allegro. Alors, le mot est sympathique, c'est ça, quand même 150 millions d'euros d'économies sur 3 ans. On sait que le groupe est plutôt décentralisé, donc la réactivité, normalement, ça fait partie de votre ADN. Qu'est-ce qu'il y a besoin, justement, de faire en plus au sein du groupe ?
Alors, d'abord, ce n'est pas un plan, c'est un projet.
Projet.
On commence tout juste l'analyse détaillée. Donc on a une ambition d'économie qui est celle que vous avez mentionnée, 150 millions d'euros. Un mot également sur le nom que nous avons choisi, Allegro. Justement, c'est par rapport à la rapidité d'exécution, qui est un sujet sur lequel on veut progresser. On veut être plus rapide dans la mise en œuvre de nos initiatives, justement pour saisir les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités de développement, l'innovation, le digital. Notre organisation doit évoluer. Je dirais qu'il y a 3 mots-clés. La simplification de nos processus, le focus, être sûr qu'on met les ressources derrière les bonnes priorités et qu'on les allège là où les sujets ne sont pas prioritaires, et également la mutualisation. Donc c'est un projet qui va concerner surtout les frais généraux dans la totalité du groupe, dans la totalité des fonctions, et qui va s'étaler sur une période de 3 ans. Et une partie des économies pourra être réinvesti derrière le développement de nos marques. Donc c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans le long terme pour tirer la croissance de demain.
Un mot d'une actualité, vous avez dit que vous ne feriez pas de contre-offre sur l'américain BIM, hein, c'est le japonais Satori, c'est une offre à peu près d'un peu plus de 13 milliards. Est-ce que ça vous veut dire que pour autant vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe sur ce marché ou compte tenu du contexte, vous ne voulez pas justement prendre trop de risques?
Nous sommes attentifs, nous regardons tout ce qui se passe sur le marché, nous analysons toutes les opportunités de croissance externe. Je pense qu'on est tout simplement très cohérent avec ce qu'on dit déjà depuis plusieurs semestres. Nous sommes ouverts aujourd'hui à des opérations ciblées sur des marques attractives, plutôt premium, en croissance, dans des marchés attractifs pour nous, États-Unis ou émergents, mais pas des opérations transformantes. Et donc, en l'occurrence, je pense que la cible que vous mentionnez est une opération transformante, donc ça ne répond pas à nos objectifs. Et par ailleurs, comme vous le savez, nous avons des critères de discipline financière stricts, à la fois en termes de levier d'endettement, nous voulons rester investment grade, et également de création de valeur. Donc pour toutes ces bonnes raisons, nous ne ferons pas de contre-offre sur la société BIM. Mais pour autant, la croissance externe fait partie de notre feuille de route pour les années qui viennent et pour complémenter la croissance interne.
Merci Gilles Bogaert d'avoir fait le point avec nous donc, sur ces résultats semestriels de Pernod Ricard. Vous êtes le directeur financier.
Je vous remercie.